Vous êtes sur RVR et vous allez suivre l'émission Politiquement Incorrect, une émission préparée et animée par Hubert Guérin.
Christophe Boudot, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Vous êtes le secrétaire départemental du Front National, président du groupe à la région Rhône-Alpes, également conseiller métropolitain et conseiller municipal de Lyon. Dernièrement, le journal Libération vous a consacré un article virulent à la suite de l'une de vos interventions à la convention des départementales de votre parti. Le journal détricote votre argumentaire et titre « Un nouveau cadre de l'intox dans les rangs du Front National ». Quelle fut votre réaction face à cet article ?
Oh, c'était une réaction habituelle par rapport à des organes de presse qui sont hostiles au Front National, donc ils cherchent toujours à remuer quelque chose, chercher dans les articles. C'est un article qui avait trait à mon intervention à la convention départementale à Paris, où sur le fond, j'avais tout à fait raison. Sur la forme, parfois, j'avais peut-être pris quelques libertés et j'avais été imprécis dans mon propos. Donc je m'en suis excusé, par exemple, avec le journaliste du Progrès. Je m'étais excusé et je l'avais appelé. Mais voilà, sur le fond de ce que j'ai dit, je ne regrette rien, je ne retire rien. Après, l'exploitation qui est faite par un journal de gauche et d'opposition m'importe très peu. Voilà, il n'y a rien à dire de plus.
Est-ce que Marine Le Pen vous a soutenu lorsqu'elle a connu l'article ?
Oui, mais c'est dérisoire. Il n'y a pas eu de, il y a eu aucun remous ni au Front National ni dans la Fédération. C'est une péripétie de campagne.
Les élections départementales étaient le week-end dernier. Le taux d'abstention au second tour est record au niveau national, 49,8%. Il est identique par rapport au premier tour. Dans le Rhône, il est de 51,47%. Comment expliquez-vous que les électeurs ne se soient pas déplacés ?
Parce que les électeurs n'y comprennent plus rien. Ils ne se sont pas déplacés parce qu'ils pensent que ce scrutin majoritaire à deux tours est défavorable à ce qu'ils pensent réellement. Au premier tour, on vote selon ses convictions. Et on se rend compte qu'avec le deuxième tour, un parti qui a pu arriver premier en tête du premier tour n'aura pas d'élu. Alors ça démotive tout le monde parce qu'il y a des combinations, des combinaisons politiciennes entre les deux tours. Et ça, c'est vraiment pas fait pour renouer avec la démocratie électorale et faire revenir les gens dans les urnes. Les gens ne se sentent pas concernés, d'une part, par les compétences du département, notamment les jeunes, qui ne voient pas bien ce que le département peut faire, et pas concernés par ce mode de scrutin qui est assez antidémocratique.
Pourquoi ce mode de scrutin est antidémocratique ? Pourtant, il est majoritaire à deux tours et universel.
Parce que, justement, il oblige des alliances de second tour. On a bien vu dans le Rhône, par exemple, que l'UDI et l'UMP étaient à couteau tiré avant le premier tour, avec des tracts tout à fait hostiles les uns envers les autres. Et les électeurs se rendent compte que finalement, entre le premier tour et le deuxième tour, il y a eu des alliances politiciennes, pas sur le fond, hein, pas sur les idées ni sur les compétences, mais sur les places, sur la gamelle, entre partis politiques pour garder les places. Donc les électeurs sont dégoûtés de tout ça. Il faut absolument changer ces modes de scrutin, revenir à un mode de scrutin proportionnel. Certes, pourquoi pas avec une prime de majorité à ceux qui arrivent en tête. Donc les majorités sont claires, mais tous les partis sont représentés. Alors que là, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors vous avez tout de même fait de très bons résultats dans le Rhône. Vous vous êtes maintenu au premier tour dans 12 cantons sur 13. Est-ce que cela marque un tournant, une nouvelle dynamique pour votre mouvement au niveau local ?
Oui, c'est un accompagnement de la dynamique nationale au niveau local. Traditionnellement, ces élections cantonales, départementales maintenant, étaient assez difficiles pour nous. Nous avions fait des scores assez modestes en 2008, en 2011. Là, les scores sont très importants. Nous arrivons en tête dans beaucoup de cantons de la région, dans trois cantons dans le Rhône, si on parle que du Rhône, qualifiés, vous l'avez dit très clairement, dans 12 cantons sur 13. Donc on voit que le vote Front National est un vote d'adhésion maintenant. Il a pu être un vote de protestation, il peut l'être encore un petit peu. Quand on est dans l'opposition, on a toujours un vote de protestation. Mais il y a quand même un vote d'adhésion à la personnalité de Marine, à la personnalité des candidats et surtout au fond des idées, au fond du programme du Front National. Et on se rend compte que dans beaucoup de cantons qui nous étaient avant peu favorables, beaucoup de cantons le sont maintenant, dans le monde du Lyonnais, dans le sud du département, et rejoignent en fait les jolis bastions du Front National de l'Est lyonnais et du Beaujolais.
Alors, votre parti espérait bien remporter un département et ainsi accentuer son ancrage local. On parlait notamment du Vaucluse. Finalement, aucun département ne sera dirigé par le Front National. Est-ce un échec pour votre parti ?
Non, je ne crois pas, parce que nous arrivons en tête, par exemple, dans 43 cantons en France, sur 100, au premier tour. Et nous sommes en tête dans le Vaucluse, dans la majorité des cantons, par exemple, puisque vous parliez du Vaucluse. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le mode de scrutin, parce qu'on se rend compte que dans le Vaucluse, par exemple, les combinaisons politiques du second tour ont empêché les candidats qui pourtant avaient été en première place au premier tour. Donc ça a dégoûté pas mal les gens. Et c'est vrai que nous n'avons pas eu d'élus, parce que seul contre tous, c'est-à-dire le Front National contre l'UMPS et d'autres partis. Quand les autres partis se mettent tous contre nous, c'est difficile de passer. Mais pourtant, tous nos scores sont, je crois qu'il y a 98 cantons en France où nous avons fait plus de 48%. Donc il aurait pu y avoir beaucoup d'élus. On en a eu 62 élus, c'est déjà pas mal, nous n'en avions qu'un seul précédemment. Donc c'est une grosse progression, ça accompagne une dynamique générale. Et donc c'est pour ça que nous pensons que c'est une victoire pour nous, même si nous n'avons pas d'élus.
Marine Le Pen se vante régulièrement d'être le premier parti de France. Ne pensez-vous pas franchement que si nous n'étions pas en période de crise, les résultats du Front National seraient de moindre importance?
Non, je ne crois pas. Au contraire, ce n'est pas forcément à cause de la crise que nous avons des voix. C'est à cause surtout de l'incompétence des autres. Nous avons un programme qui est très pragmatique, qui maintenant est identifié. Et nous avons une classe politique qui complètement se dérobe sur tous les sujets, a échoué sur bien des sujets, notamment sur le chômage. Donc forcément... les gens se tournent vers le Front National pour avoir une alternative supplémentaire et nouvelle à cette classe politique en place qui a échoué. Donc voilà, c'est une conséquence en fait de l'incompétence de la classe politique en place qui n'a pas fait son travail. C'est vrai que nous sommes dans une période de crise, donc ça encourage peut-être les gens à voter pour un changement. Mais le changement aurait pu venir d'autres partis, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc le seul changement, c'est le Front National actuellement.
La figure de Marine Le Pen à la tête du parti a permis de rapporter des voix supplémentaires par rapport à la figure de Jean-Marie Le Pen, qui pouvait être crispante.
Oui, je crois que c'est très important d'avoir une femme aujourd'hui à la tête d'un mouvement politique. Je crois que la société, en ce moment, est mûre pour voter pour une jeune femme. Elle ne l'était peut-être pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Vous savez, l'élection, notamment présidentielle, c'est la rencontre d'une personnalité avec les Français. Et actuellement, nous sommes en très bonne position parce que Marine Le Pen va s'adresser directement aux Français. Elle est une jeune femme, mère de famille, de 3 enfants, qui a travaillé déjà, qui connaît le monde du travail, qui connaît le monde de la famille, et qui présente bien. Donc voilà, pour l'instant, je crois que l'adéquation... n'était peut-être pas vrai il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans, mais elle l'est aujourd'hui. Et le fait qu'on ait une personnalité féminine, une personnalité enjouée pour nous représenter, je pense que ça fait beaucoup pour le Front National. Et en tout cas, ça a décrispé beaucoup de personnes, peut-être, notamment des femmes, qui s'apprêteraient à voter maintenant pour une femme et pour une jeune femme.
Je reviens aux élections départementales. Vous étiez présent dans l'ensemble des cantons de France, 97% je crois. Dans un reportage diffusé sur France 2, une nonagénaire apprend par le journaliste qu'elle est candidate sur une liste Front National et les cas sont nombreux. Comment expliquez-vous de telles pratiques?
Ouais, je crois que c'est tout à fait dérisoire dans les 4000 candidats que nous avons
eu. Oui, mais c'est un peu antidémocratique d'inscrire des gens sur des listes alors qu'ils ne sont pas au courant.
Oui, mais généralement, tous les gens sont inscrits. Il peut y avoir, par contre, des personnes fragiles qui se font, j'allais dire, retourner par l'entourage ou même par d'autres partis politiques, c'est arrivé. Des personnes qui auraient oublié ou... Voilà. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu aucun abus de faiblesse, aucune usurpation. Moi, par exemple, je me suis occupé pas mal des listes, notamment à Vénissieux ou alors...
On va y revenir.
Dans les départementales. Personne n'a jamais été abusé de quoi que ce soit. Après qu'il y ait des pressions qui sont organisées sur les personnes fragiles, dans la semaine, dans les 15 jours, dans les 3 semaines qui suivent sa signature, c'est arrivé et ça arrive beaucoup. Mais la plupart des cas, c'est ça. Il n'y a pas eu de malversation aucune vis-à-vis du Front National.
La présidente sortante du département, Danielle Chusseville, a déclaré lors de la soirée électorale sur notre antenne que les candidats du Front National étaient, je cite, en dehors de la réalité et présentait des programmes généraux. Que lui répondez-vous?
Madame Chusseville doit partir à la retraite. Elle aurait dû partir à la retraite déjà depuis quelques années parce qu'elle dit n'importe quoi. C'est évident que le programme du Front National était un programme local, bien sûr, sous-tendu par un programme national, parce que tous les partis politiques avaient mis cette élection sous l'angle national, notamment le Premier ministre, Manuel Valls, le ministre du tremblement compulsif, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, avait nationalisé cette campagne, Sarkozy avait lui-même nationalisé cette campagne, Marine Le Pen aussi, évidemment.
Oui, mais il y avait quand même des enjeux nationaux pour les partis.
Il y avait des enjeux nationaux, il y avait aussi des enjeux locaux. Et nous avions, quand on voit Mme Schussville qui déclare cela, on se demande ce qu'elle pense, parce que tous nos candidats, tous nos tracts, il y avait des arguments locaux, notamment sur la petite enfance, notamment sur la gestion passée de Michel Mercier, et aussi nous, ce qu'on voulait améliorer. Donc nos tracts étaient vraiment, à part un tract qui avait été national, tous les autres tracts et toute la communication politique de cette élection étaient tout à fait locales. Je ne vois pas pourquoi on pourrait dire le contraire.
En décembre prochain vont se dérouler les élections régionales. Vous n'étiez pas candidat au départemental pour vous consacrer justement au régional. Vous aviez déclaré que vous aviez le soutien de Marine Le Pen, donc vous étiez l'un des favoris pour prendre la tête de liste de la région. Donc serez-vous la tête de liste du Front National Rassemblement Bleu Marine pour les élections régionales de 2015?
Je suis candidat à la candidature. Toutes les investitures n'ont pas été données encore, parce qu'il y avait beaucoup de travail déjà avec les départementales. Mais ça ne saurait tarder maintenant, je pense, dans quelques jours, dans quelques semaines. En tout cas, j'ai de bonnes chances de l'être, et je fais tout en tout cas pour organiser la région et notre campagne électorale déjà pour cette échéance du mois de décembre prochain. Mais évidemment que j'ai beaucoup de chances de l'être, oui.
Pensez-vous avoir une chance de remporter la région?
Je crois que c'est possible, parce que nous avons des forces en présence, nous avons trois forces en présence importantes, UMP, l'EPS et le Front National, dans une logique de triangulaire et dans une logique proportionnelle, avec un scrutin proportionnel, et nous avons de fortes chances de l'emporter, avec des équipes qui sont tout à fait compétentes, j'allais dire aussi compétentes sinon plus que les équipes actuelles, et dans la configuration, j'allais dire, de cette élection, avec les territoires ruraux qui deviennent très très forts pour le Front National, et avec la dynamique qui accompagne le Front National, la dynamique de faiblesse qui accompagne le Parti Socialiste, et la stabilité de l'UMP, et la division avec l'UDI aussi, parce que l'UMP arrivera à se diviser à cette élection, je crois que nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Oui.
Quel projet souhaitez-vous porter pour la région Rhône-Alpes?
Difficile à dire pour l'instant, parce que nous ne sommes pas encore en campagne électorale, mais il y a des sujets
des grands axes
très importants qui seront abordés, notamment la formation professionnelle, qui est une compétence de la région et qui est absolument détestable actuellement. Nous confierons la formation professionnelle à des chefs d'entreprise avec un développement de l'alternance entreprise-école, ce qui est très peu fait actuellement. Au niveau des lycées aussi, l'enseignement supérieur, nous aurons des propositions. Nous aurons aussi des propositions sur les transports, très importants, hein, qui sont d'un budget énorme pour la région. Et surtout, ce que nous allons dire, c'est qu'il faut clarifier les compétences régionales. La région s'occupe de tout, donc finalement de rien. Nous mettrons en évidence les grosses compétences, le transport, le lycée, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'entreprise, et nous délaisserons toutes les clauses de compétences générales qui sont, à mon avis, budgétivores et qui devront être dévolues à d'autres collectivités locales. Nous sommes pour une clarification claire de toutes les collectivités locales et de toutes leurs compétences.
La réforme territoriale va se concrétiser par le rapprochement de la région Rhône-Alpes avec la région Auvergne. Que pensez-vous de cette union?
Moi, je suis tout à fait contre. Parce que nous défendons un triptyque traditionnel qui, à mon avis, est le plus compréhensible pour les gens, c'est-à-dire la commune, le département et l'État. Les socialistes au pouvoir défendent, eux, des intercommunalités, suppression des communes, des métropoles, des départements pour ce qu'il en reste, des petits départements, des régions tentaculaires qui ont grossi, là, j'ai vu la région Rhône-Alpes-Auvergne, donc 13 départements, et qui se tourneront directement vers l'Europe. On squeeze un petit peu l'échelon étatique, et nous pensons que c'est très mauvais pour la démocratie et pour l'avenir institutionnel de la France. Nous pensons vraiment que cette euro-région, cette méga-région, va en fait éloigner beaucoup le citoyen des centres des décisions. Nous allons faire des monstres technocratiques, comme nous avons déjà fait à Bruxelles, avec des dizaines de milliers de fonctionnaires qui s'occupent en fait des compétences, de la vie des gens, pour les gens eux-mêmes, et les gens ne sont jamais consultés, sauf une fois tous les 6 ans, lors d'une élection. Nous voulons avoir un rapprochement beaucoup plus direct entre la population et les collectivités territoriales. Pourquoi pas conserver la région, mais en tant qu'institution de coopération entre les départements. Donc nous aurions des mêmes élus, nous aurions que des élus départementaux, élus la proportionnelle, qui siégeraient une fois tous les 2 mois, par exemple, à la région, pour faire coopérer les départements entre eux.
Dernièrement, la secrétaire d'État en charge des droits des femmes, Pascale Boitard, a relancé le débat sur le port du voile à l'université. Elle milite pour sa suppression pure et simple. Les jeunes femmes visées y voient une atteinte à la liberté. Que pensez-vous de cette proposition? Est-ce que vous la soutenez?
Il faut absolument interdire le voile, que ce soit à la crèche, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les lieux publics. C'est très important. Je crois qu'il y a une conception de la laïcité française, même universelle, mais surtout française, qui doit être défendue. Il ne pas avoir de signes ostentatoires de ces religions, notamment la religion musulmane, hein, qui est une religion assez neuve en France, depuis une quarantaine d'années, mais de toutes les religions, les signes ostentatoires de la religion musulmane, qui sont souvent des provocations, qui sont souvent des revendications politiques, notamment le voile dans le milieu public, ne doivent pas avoir leur place en France. En France, c'est la laïcité, ça a toujours été comme ça depuis plus d'un siècle, et c'est la religion, c'est la civilisation chrétienne qui est à l'origine de notre pays depuis des centaines d'années, depuis des siècles, et c'est ça qui doit être sous-tendu par une laïcité neutre, mais par une prédominance de la civilisation judéo-chrétienne.
Les responsables politiques ont-ils trop reculé face à la laïcité?
Bien évidemment, les responsables politiques ont reculé vis-à-vis des revendications politiques ou religieuses, notamment les partis de gauche, hein, qui ont voulu, par cette population immigrée, souvent musulmane, se constituer un réservoir électoral. On voit ça depuis une trentaine d'années. Je trouve que c'est un mauvais coup porté à la France, et un mauvais coup porté à notre identité culturelle, une identité française. Voilà. Je milite évidemment contre toutes ces dérives communautaires.
Le maire de Chalon-sur-Saône a annoncé la suppression des menus de substitution dans les cantines de sa commune à la rentrée 2016 au nom du principe de neutralité justement de la laïcité. Faudrait-il faire de même à Lyon pour les cantines qui appliquent ce menu de substitution?
Non, cette histoire de Chalon-sur-Saône, c'était un coup politique à la Sarkozy, quelques jours avant l'élection, pour essayer de mettre un coup de barre à droite. C'est dérisoire à mon avis, parce que dans toutes les cantines, il y a des menus de substitution, c'est très bien comme ça, pour les enfants allergiques, ou autre.
Au niveau religieux, pour les enfants allergiques, oui, d'accord. Au niveau religieux, quand on propose une viande halal à la place...
Il ne faut surtout pas présenter de viande halal, évidemment. Il faut présenter, pourquoi pas, un menu végétarien qui irait à ceux d'entre les élèves qui ne voudraient pas de jambon ou de porc ou de choses comme ça. Il faut avoir un menu à la française, courageux, normal, et par contre avoir un petit menu, pourquoi pas, de substitution pour ne gêner personne. C'est toujours fait en France, ça. Il n'y a pas à provoquer plus que ça, mais en tout cas, jamais, bien évidemment, de menu cachère ou de menu halal dans les cantines, bien évidemment. Là, ce serait donner prise aux revendications religieuses, politico-religieuses. Il faut des menus, comme on a toujours fait, montés par des diététiciens, et un menu à côté pour les enfants qui seraient gênés, et qui seraient gênés aussi pour leurs allergies. Voilà, comme ça c'est toujours fait. Là, l'opération de Chalon-sur-Saône, c'est dérisoire, c'est provoquer pour provoquer, à 3 jours des élections, je trouve que c'est vraiment pas bien.
Merci beaucoup Christophe Boudot d'avoir accepté mon invitation.
Je vous en prie.